Vous écoutez, on lit pour vous.
Certains chiens peuvent apprendre des mots en écoutant les conversations. Un texte de l'Agence France-Presse publié le 8 janvier 2026 dans la presse. Promenade, jouer, friandise, il suffit de prononcer certains mots pour capter l'attention de la plupart des chiens. Mais une poignée d'individus d'exception semblent capables d'apprendre le vocabulaire humain simplement en écoutant les conversations, comme de très jeunes enfants. C'est ce que révèle une nouvelle étude publiée jeudi dans la revue Science, qui montre que certains chiens, déjà connus pour être capables d'apprendre le nom de jouets par l'entraînement et le jeu, peuvent aussi assimiler des mots simplement en entendant des humains parler entre eux. La chercheuse Shani Dror, de l'Université vétérinaire de Vienne, mène depuis des années une expérience avec des chiens ayant démontré une aptitude particulière à apprendre le langage à travers les interactions sociales. Au fil de ses recherches, elle a remarqué que certains chiens semblaient écouter les conversations de leur maître. Il me racontait par exemple que, alors qu'il parlait de commander une pizza, le chien était entré dans le salon avec un jouet appelé pizza, déclare-t-elle à l'AFP. Avec une équipe de l'université hongroise Laurent Detvos, elle a donc cherché à vérifier si ces chiens particulièrement intelligents pouvaient associer un nouveau mot à un nouvel objet sans qu'on leur enseigne explicitement le lien entre eux. Ils ont découvert que les chiens doués pouvaient effectivement apprendre le nom de nouveaux jouets à partir de paroles entendues par hasard, aussi bien que lorsqu'on s'adresse directement à eux, comme l'a montré leur capacité à rapporter ensuite les jouets correspondants. Ces chiens sont toutefois des cas exceptionnels. Shani Dror explique qu'en 7 ans, son équipe n'a identifié qu'environ 45 chiens connaissant le nom de jouets. Mais, selon elle, ces résultats offrent des pistes sur la machinerie complexe nécessaire à l'apprentissage social pour voir si elle peut exister chez un animal qui ne possède pas le langage. Nous avons découvert qu'il existait bel et bien, affirme-t-elle. Cela nous donne une indication sur le fait qu'avant que les humains ne développent le langage, ils disposaient déjà de cette capacité cognitive très complexe à apprendre des autres. Chien savant. Spécialiste du comportement canin à l'Université d'État de l'Arizona, Clive Wine explique que l'étude a été très bien menée, mais souligne que les animaux étudiés sont profondément exceptionnels et que tous les propriétaires de chiens ne doivent pas s'attendre à des qualités de génie chez leurs animaux de compagnie. Mais comment ces chiens sont-ils devenus si doués? Une possibilité évidente est qu'ils soient de véritables chiens savants, avance Clive Wine. Mais une autre possibilité est que ce n'est pas leur faculté intellectuelle qui est exceptionnelle, mais leur système motivationnel, ajoute-t-il, citant l'exemple de Chaser, un chien qui était doté d'un vocabulaire phénoménal de plus de 1000 mots et possédait également une capacité exceptionnelle pour l'entraînement et le jeu. Chaser était un border collie, une race de chiens de berger particulièrement douée, selon Shani Dror. L'éventail des chiens capables d'apprendre de nouveaux mots est surprenant, souligne-t-elle. Avec aussi un Shih Tzu, un Pékinois, des Yorkshire, ainsi que des chiens croisés, dont un chien recueilli dans un refuge. Mais s'il est peu probable que les chiens ordinaires apprennent en écoutant des conversations, la chercheuse rappelle que les chiens, en général, sont très doués pour comprendre les signaux de communication humains. Même si nos chiens ne connaissent pas le nom des objets, je pense que nous pouvons malgré tout être plus attentifs à la manière dont nous nous comportons lorsque nous interagissons avec eux, avec l'idée sous-jacente que peut-être ils apprennent quelque chose de ces échanges, conclut-elle. C'était « Certains chiens peuvent apprendre des mots en écoutant les conversations », un texte de l'Agence France-Presse publié le 8 janvier 2026 dans la presse.
Sexualité et dating. Qu'est-ce qui nous attend en 2026? Un texte de Myriam Daguzan-Bernier, paru le 19 décembre 2025 dans le magazine Urbania. L'auteur est sexologue et nous offre ce petit collage éparpillé de tendances sexu à venir, pour le meilleur et pour le plaisir. Ouf! Quelle fucking année, peut-on se le dire? Si en 2025, on souhaitait avoir un certain contrôle sur sa sexualité pour, peut-être, réussir à contrer le chaos ambiant, qu'en est-il pour 2026? Est-ce que l'IA sera connectée à nos bobettes? Réponse courte, oui. Aura-t-on encore besoin de romances guimauvées ou est-on un peu plus terre-à-terre? Ou les deux? Let's see. Thérapie ou ChatGPT? La première chose que je me suis dite en faisant cet exercice est « Coudonc, vais-je perdre ma job? » La question se pose, car l'IA fait maintenant partie de nos vies et pas à peu près. Selon un rapport annuel de la Harvard Business Review, l'utilisation première de l'intelligence artificielle chez le public en 2025 a été pour faire de la thérapie. Ma collègue Vanessa Destiné se dit d'ailleurs en relation d'aide avec ChatGPT et, si l'on en croit ce document, elle n'est manifestement pas la seule. Si je vous parle de ça, c'est que l'IA s'insinue partout dans nos vies, incluant bien sûr notre intimité. Et 2026 n'y échappera pas. On prévoit que de plus en plus de gens se serviront de logiciels d'intelligence artificielle pour obtenir des conseils sur la sexualité. On parle même de « digital threesome », puisque l'IA s'insinue dans le traditionnel couple à deux pour « spice up » les relations sexuelles. On s'en servira aussi pour trouver du soutien après les ruptures difficiles et pour savoir comment mieux dater. D'après l'application Happn, l'IA servira d'emotional training, entraînement émotionnel, pour exprimer plus facilement ce qu'on ressent. Ah, by the way, de therapy talk, comme préliminaire, est aussi dans les tendances à surveiller. L'intelligence émotionnelle is the next sexy thing. Pour vrai. Toujours du côté de l'IA, il y a évidemment toute la technologie intelligente qui s'insère maintenant dans les jouets sexuels. Des gadgets qui s'adaptent de façon ultra précise au corps, aux sensations voulues, aux mouvements, etc. Il y aura de plus en plus d'appareils connectés et sophistiqués à portée pour capter les réponses du corps et renseigner les jouets sur vos besoins particuliers. Self-care intime et planétaire. Parlant consommation de jouets. La prochaine année marquera vraisemblablement la normalisation de l'utilisation de ces petits amis pratiques. Non seulement les ventes vont continuer à exploser, mais leur usage sera ciblé, entre autres, pour la santé. Car avoir des orgasmes ou juste du plaisir sans pression, ça aide la santé mentale et physique. On voit donc de plus en plus la valeur ajoutée de ces objets dans nos vies, dans une perspective de bien-être. On se préoccupe d'ailleurs aussi de la santé de la planète, puisque de plus en plus de personnes se tournent vers des alternatives plus vertes, jouets sexuels inclus. L'intérêt pour une sexualité éco-consciente est bien réel, et le marché s'adapte en conséquence. Condoms véganes, lubrifiants à base d'ingrédients naturels, jouets sexuels durables, etc. Et bien sûr, des emballages plus éco-friendly pour vendre ces beaux produits. Tout ça tombe à point. L'éco-dating ou la rencontre éco-responsable est encore trendy. Abracadadating. Ah, le dating. Impossible de faire des prédictions sexo sans creuser ce sujet crucial qui fait couler encore beaucoup d'encre. Comme on l'a vu plus tôt, on sait déjà que l'IA s'en mêlera, entre autres, via le simple fait de se tourner vers des chats GPT et qu'on sort en ligne pour mieux arriver à connecter en chair et en os. Mais aussi via les fameux dating concierges sur les applications de rencontres qui proposeront de plus en plus d'options de personnalisation pour vous assurer une expérience concluante. Sinon, l'application Plenty of Fish semble avoir eu bien du fun à concocter un lexique des trends populaires chez ses utilisateurices. Retenez ces cinq mots. Cam Ristry. Rester ouvert, ouverte, à ressentir une chimie non prévue avec une personne. De la « chemistry » avec du « riz », quoi. Curveball crushing. Dater hors de son type habituel ou de sa checklist. Parce que oui, ça arrive de se pogner une balle courbe et elle n'est pas obligée d'être poche. Love luring. Dérivé de dating for the plot, j'adore. On reste dans une date pour l'histoire qui va venir avec. Bref, on sort son ou sa scénariste intérieure et on enjoy le récit légendaire qui en résultera à notre prochain souper d'amis. True casting. Aller à une date de la façon la plus authentique possible. Salut! Voici qui je suis. Si t'aimes pas ça, on passe au suivant ou à la suivante. Sans rancœur, mon petit cœur. Et là là. Status flexing. Laisser tomber des situationships pas claires et clarifier les relations questions de rassurer tout le monde. J'en entends applaudir. PVI. Je rêve d'entendre vos traductions québécoises de ces expressions. Please, faites-le. Sortir de sa zone de confort. Parmi les autres pratiques qui seront populaires dans le dating, on retrouve le Digital Detox Dating ou la rencontre de désintoxication numérique, un terme très peu vendeur, would not recommend. Comme on sait que des tas d'ados et de jeunes adultes embrassent le retour du flip phone, ce n'est pas surprenant de constater que l'envie de connexion hors ligne soit tendance. Joindre un club de crochet. Aller à un vernissage. Boire un thé au café du coin, et ce, dans l'optique de rencontrer des gens live. Je sais, ça fait peur, mais vous êtes capable. Tant qu'à vivre aussi dangereusement, il sera aussi possible d'explorer le hot take dating, c'est-à-dire une rencontre au cours de laquelle on confronte nos valeurs en discutant politique et sujets chauds. Dans l'état actuel de notre monde, il est un peu plus difficile de passer outre, et tant mieux. Mettre carte sur table, ça peut être payant ou du moins éclairant. Sinon, il y a toujours le solo partnership ou sologamy. De plus en plus de gens souhaitent mettre de côté les relations amoureuses pour apprendre à mieux se connaître et faire du travail sur son développement personnel. C'est vrai qu'au final, la plus longue relation que vous aurez, c'est toujours bien avec vous-même. Autant la vivre avec quelqu'un ou quelqu'une que vous avez appris à aimer avec ses bons et ses mauvais côtés. Bref, pratiquer l'autocompassion, ça fait du bien. De quoi sera fait 2026 dans son ensemble? Ça reste à voir. Mais du côté des sexualités, on peut constater une envie d'approfondir la connaissance de soi et de l'autre et de brasser les cartes différemment. Il y a une claire volonté de revenir à des connexions plus vraies, plus senties, mais aussi un besoin de jeu, d'inconnu, de surprise. Tout ça avec un petit, grand fond d'intelligence artificielle pour se sécuriser et se valider. Bien curieuse de voir l'évolution de tout ça. Et l'avenir nous dira si ma job sera remplacée par l'IA ou pas. Pour l'instant, je n'ai aucune crainte. On est encore humain et humaine, trop humain et trop humaine, pour s'en passer. Clin d'œil au livre « Humain, trop humain » 1878 de Friedrich Nietzsche. C'était « Sexualité et dating, qu'est-ce qui nous attend en 2026 ?» Un texte de Myriam Daguzan-Bernier, paru le 19 décembre 2025 dans le magazine Urbania. Thank you.
À main forte, Joseph a retrouvé une activité et le goût de vivre. Un texte d'Aline Van Compernol, paru dans l'édition Hiver 2025, numéro 165, de la revue Paraquad. Depuis un peu plus de 3 ans maintenant, Joseph Mbula Mukuna a vu son univers passer de l'ombre à la lumière après avoir franchi la porte de Main-Forte, rue Saint-Hubert à Montréal. L'organisme d'insertion lui a ouvert ses portes comme il sait si bien le faire, avec toute la gentillesse et la confiance qui le caractérisent. Totalement déprimé après avoir été forcé de s'éloigner de son pays, la République démocratique du Congo, de sa famille et du marché du travail, Joseph est arrivé au Canada il y a 8 ans sous le statut de réfugié politique. Ce n'est d'ailleurs qu'il y a 6 mois qu'il a enfin obtenu sa citoyenneté et un nouveau passeport qui lui permettra bientôt de rendre visite à ses proches en France. En attendant, Joseph a finalement retrouvé une seconde famille chez ses collègues de Main-Forte qu'il voit chaque jour de la semaine ou presque. Citation. « Je ne pouvais plus rester à la maison. Je risquais de mourir. Je m'ennuyais tellement. J'étais très isolée dans mon 5,5 à Montréal-Nord. » Je suis allée voir Emploi Québec et ils m'ont envoyée à Mémo Québec. J'ai rencontré Marlene. Elle a dit qu'elle allait me trouver une occupation et elle m'a envoyée ici. » Fin de citation, se souvient Joseph, tranquillement assis autour de la grande table de pause, visiblement à l'aise comme un poisson dans l'eau. Il n'a pas fallu à Marlene, sa conseillère en emploi à Mémo Québec, une semaine pour lui trouver la place qui lui convenait. Citation. J'ai téléphoné à Renée Caron, la directrice générale de Main-Forte, et je lui ai dit « Je pense que j'ai quelqu'un pour toi ». Elle m'a répondu que je pouvais lui envoyer sans problème. Fin de citation, se remémore Marlene le sourire aux lèvres. C'est ainsi que Joseph a bénéficié de son premier passe-action. Joseph, qui vient de fêter ses 70 ans, a toute sa vie été dans le commerce. Depuis l'âge de 17 ans, précise-t-il. Il était cependant, depuis de nombreuses années, éloigné du marché du travail. Les tâches manuelles et les travaux de montage qui lui sont proposés chez Main-Forte lui ont demandé un certain temps d'adaptation. Il a fallu s'acclimater, s'habituer, mais une fois que la routine était trouvée, coller des boîtes en plastique ou des sacs à bonbons est devenu un jeu d'enfant. Et après seulement 15 jours sur place, Joseph, qui se lève tôt, s'est vu confier les clés de l'atelier. Une confiance qu'il n'a jamais vue ailleurs. Ensuite, l'aspect social a pris le pas et Joseph s'est lié d'amitié avec toute l'équipe, particulièrement William, son ami de Ville-Saint-Laurent, qui l'emmène avec lui dans son église tous les dimanches avant d'aller déjeuner. C'est bien simple, Joseph ne se souvient pas avoir connu des gens si gentils, à tel point qu'il appelle Main-Forte le paradis. L'organisme lui a redonné le goût de vivre. Tous ses collègues l'apprécient beaucoup et n'hésitent pas à lui rendre service. Après tout, il est l'aîné. À tel point qu'il est affectueusement surnommé « Grandpa ». Qu'est-ce que le « passe-action » ? Le gouvernement du Québec définit le « passe-action » comme étant un programme d'aide et d'accompagnement social. Il a pour objectif de permettre à des personnes bénéficiant du revenu de base et éloignées du marché du travail de progresser suffisamment au plan socio-professionnel et ce, dans la perspective d'accroître leur accès au marché du travail. C'était « À Main-Forte, Joseph a retrouvé une activité et le goût de vivre », un texte d'Aline Van Compernol, paru dans l'édition Hiver 2025, numéro 165, de la revue Paraquad.
Vers un quartier des métiers d'art à Montréal? Un texte de Catherine Lalonde, paru le 18 décembre 2025 dans Le Devoir. Imaginez une balade sous l'édifice Farine Five Rows, où se moue encore de la farine entreposée dans de hauts silos de béton. Imaginez continuer vers l'édifice voisin, l'ancien Montreal Dry Dock, et y trouver, plutôt que des graffitis, une vitrine de création d'artisans du Québec en cuir, en verre, en textile, en joyaux ou en bois. Imaginez passer la porte pour visiter ensuite l'expo à l'affiche. Et dans les autres usines abandonnées, dans la rouille et la poussière autour, imaginez toutes les écoles de métiers d'art du Québec rassemblées si près du canal Lachine, et leurs étudiants et leurs idées, et des résidences pour artisans, et un espace vert. Telle est la vision de ce quartier des métiers d'art que présente le CMAQ, le Conseil des métiers d'art du Québec. Le quartier s'étendrait sur presque 31 000 mètres carrés. Il permettrait de revitaliser et de réinventer les bâtiments industriels du bassin Wellington, explique Catherine Charon, responsable du projet. Et il pourrait se construire un édifice à la fois. Le projet répondrait à tous les besoins urgents de nos artistes en métiers d'art en mettant en avant la production et la créativité d'ici. Les coûts de ce plan sont actuellement estimés à 90 millions de dollars. Dans ce quartier gîtent déjà les forges de Montréal, le facteur d'orgue Juget-Saint-Clair et l'école-atelier de verrerie Espace Vert. Et pour nous, c'est vital que l'on conserve le patrimoine industriel de Montréal, ajoute Mme Charon, d'autant qu'il est mal protégé au Québec. Ces bâtiments sont vacants et c'est un geste écologique de ne pas tout démolir. Ce rêve de quartier des métiers d'art s'inspire notamment des grands ateliers de Lyon, de l'ancien chantier naval NDSM, Shipyard d'Amsterdam, du Darwin Écosystème de Bordeaux et du Distillery District de Toronto. Ici, il est issu des consultations publiques sur l'avenir du secteur Bridge Bonaventure, tenues en 2018, et s'est arrimé ensuite au désir et au plan de développer le bassin Wellington. C'est un quartier où le zonage est approprié pour les besoins des artisans, poursuit Mme Charon, où on peut avoir une zone industrielle très vivante, des commerces et de l'habitation presque côte à côte. Par où commencer? En posant une maison mère, estime le CMAQ, qui a fait déjà une offre d'achat sur l'édifice du 1151 rue Mill. Là, vacante, se trouve la coquille de l'ancien atelier d'assemblage de la Montreal Dry Docks. Cette cale sèche servait dès 1848 à l'entreprise de construction navale de frères Tate. Elle a été comblée fin 1960. L'ambition est d'y faire, sur environ 2800 mètres carrés, des ateliers de production partagés, une boutique et un espace d'exposition et de médiation, le tout en conservant autant que possible les matériaux de la bâtisse originale. Ce lieu serait le premier à réanimer le quartier et à rassembler, en testant des manières de collectiviser les ressources avec les forges de Montréal, l'espace vert, le facteur d'orgue Juget-Saint-Clair et la distillerie Sazerac, tous voisins et déjà dans le secteur. Réunir les métiers orphelins. Yannick Alain Vouillet est artisan des métiers du livre, reliure, impression et papeterie haut de gamme. Il a fondé l'atelier Écluse il y a 3 ans. Nos installations marchent bien, mais si on croit encore, on va avoir besoin de plus d'espace. On veut attaquer le marché de l'Europe cette année, car les États-Unis, c'est dur ces temps-ci. Il occupe un peu moins de 85 mètres carrés, en partage dans l'ancienne usine Crane, rue Saint-Patrick. Son loyer est de 1650 $ par mois. Pour autonomiser sa production de papier, il a besoin de 185 mètres carrés de plus. Il souhaite être des occupants du quartier des métiers d'art. Je pratique un métier orphelin. Ma communauté directe est très réduite. Être près d'autres créateurs, de la relève, aller voir un vernissage, ça donne de l'air. À côté de son atelier de la rue Saint-Patrick, loge d'ailleurs un ébéniste et atelier gris qui travaille l'acier. Ses artisans l'aident parfois à réparer, à ajuster, à réfléchir. M. Alain Vouillet souhaite vraiment plus d'émulation de ce genre. Embûches et ambitions. Mais comment éviter pour ce quartier l'effet domino, documenté, qui survient à la création de quartiers artistiques? Cet effet qui entraîne, comme dans le quartier des spectacles, une surgentrification. Comment s'assurer que ce projet pérennise bel et bien des espaces pour les artisans de demain? Il faut absolument que ça reste à échelle humaine. C'est assez difficile, estime Catherine Charron. D'abord, il ne faut pas trop développer en hauteur, malgré le besoin de densifier, croit la responsable du projet. Éviter les gratte-ciels, quoi. Aussi, il faut s'assurer d'avoir le bon système de gouvernance. Et pour le financement, il est question d'une fiducie foncière communautaire, un modèle assez rare au Québec, poursuit Mme Charron. Est-ce que ça peut être utilisé à long terme? Elle rappelle que les artisans arrivent avec leurs capacités financières. Certains ont des boutiques ou sont propriétaires. On a un membre qui paie 300 000 $ par an de loyer, donne Mme Charron en contre-exemple. Pour lui proposer mieux, ça laisse de la marge, ajoute-t-elle en boutade. La deuxième étape pour monter ce quartier serait d'y déménager les 8 écoles de métiers d'art. Espace Vert y est déjà, au 1200, rue Mill. De là, les artisans pourront réinventer le secteur vers les métiers d'art, à partir de ce qu'ils créent, de la façon dont ils le font, souligne Catherine Charron. D'autres volets complètent la vision. De l'un, l'ajout de 25 à 30 ateliers boutiques où les créateurs et producteurs locaux se partageraient quelque 7000 m². Une toute récente étude d'AppEco sur la situation économique des artisans souligne la grande différence entre ceux qui ont une boutique et les autres. Le revenu médian des artisans qui possèdent une boutique est de 130 000 $ par an, dont 104 000 $ en vente d'œuvres, y lit-on. Pas de boutique? Le revenu médian des artisans est alors de 45 000 $. Autre étape du projet, un centre de réemploi. Finalement, une promenade culturelle et patrimoniale pour les résidents, les touristes et la communauté. Le CMAQ espère ouvrir sa nouvelle maison-mère dès 2026. C'était « Vers un quartier des métiers d'art à Montréal », un texte de Catherine Lalonde paru le 18 décembre 2025 dans Le Devoir.